Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Closier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous. On continue à débattre évidemment, comme chaque jour, jusqu'à 15h, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier. On est ensemble effectivement jusqu'à 15h sur RMC Story. Appel à la grève à la SNCF pour le premier grand week-end de départ en vacances. Alors notre question, peut-on encore compter sur la SNCF ou Air France? Ça peut marcher aussi, il y aura une grève à tout moment pour partir en vacances.
Attention, une grève. On les a un peu mis dans le même sac hein, là pour le coup, Air France.
Ouais,
et on a tellement eu de problèmes.
À 14h, tout autre sujet. Vous saviez que la fessée était interdite. On ne donne pas la fessée à ses enfants. Mais hurler sur les enfants, eh bien c'est aussi illégal. C'est ce que rappelle la Fondation pour l'Enfance qui lance une campagne pour sensibiliser les parents. Alors on vous pose la question, est-ce qu'avec vos enfants, il vous arrive d'élever la voix? Ça fait débat, on attend votre avis. 32-16.
Ça va être un débat houleux.
Mais personne ne va hurler.
Alors vous pouvez-vous hurler dessus, mais
non,
par contre
jamais.
Pas sur les enfants.
Jamais,
je nous l'interdit en tout cas.
Oui, c'est pas interdit d'hurler sur Laurent Neumann.
Non. C'est pas interdit. C'est pas
ça, j'ai vu que tu... Mais en revanche, moi, je ne hurle jamais sur toi.
Oui, mais t'as le droit.
À 13h50, de l'info et de la bonne humeur avec Lisa Marie. Marquez, on parle de quoi, Lisa Marie, aujourd'hui?
On va parler de Blanche-Neige. Disney a choisi l'actrice qui l'interprétera dans son prochain film. Et si ça fait parler, c'est parce qu'elle est métisse.
D'accord, à tout à l'heure Lisa Marie. Je ne sais pas si vous comptiez partir en vacances, mais si c'est le cas, tendez bien l'oreille. Trois syndicats de la SNCF appellent à un débrayage de 48 heures les 3 et 4 juillet chez Ouigo. L'activité TGV à bas coût de SNCF Voyageurs, une date très très bien choisie puisque c'est le premier week-end de départ en vacances d'été. C'est le deuxième appel à la grève en une semaine puisque lundi déjà la CGT Cheminots appelait à un arrêt de travail des Transiliens au niveau national pour le 1er juillet. Alors quelle est la raison invoquée? Dans une interview dans les Échos, les syndicats parlent d'un mécontentement général, de perte de rémunération liée aux éléments variables de sol qui se cumulent avec des conditions de pause et de restauration fortement dégradées. À quoi s'ajoute une série de problématiques locales, une grève qui arrive pile au moment où la SNCF se lance dans une stratégie de reconquête commerciale. Alors est-ce qu'on peut encore compter sur la SNCF et sur Air France qu'on a mis avec?
Ils n'ont rien demandé.
Pour partir en vacances, c'est notre question. Emmanuel, tu dis non.
Oui, bah Air France, on les a mis dans le même sac parce que...
On est prêts, c'est ça?
Non, puis c'est pas ça, c'est qu'on a quand même eu des mauvais souvenirs, je veux dire, au cours des dernières années, où ils ont quand même saboté les départs en vacances.
Donc c'est préventif, de les avoir mis...
Voilà, on les a inclus dans la liste de façon préventive, mais parce que la logique est la même. On voit bien qu'il s'agit de défendre des intérêts corporatistes, de montrer... pour des raisons politiques, l'opposition à la direction de l'entreprise, parce que objectivement, dans les arguments des syndicats, il y a énormément de choses. On sent bien que on veut montrer qu'on est là par rapport à l'ouverture à la concurrence, vis-à-vis de laquelle on s'inquiète. Au moment où l'entreprise en plus entame une reconquête commerciale, et ça, c'est ça moi qui pour moi pose problème, c'est-à-dire qu'en fait, la SNCF en faisant ça, les syndicats se tirent une balle dans le pied à eux-mêmes et à leur entreprise. Parce qu'il n'y a que des perdants dans cette affaire. Les perdants, c'est qui? Bah, c'est évidemment les Français qui vont pas pouvoir partir en vacances. C'est les voyagistes, c'est les hôteliers, c'est ces entreprises elles-mêmes qui, rappelons-le, sont confrontées à la concurrence. La réalité, c'est quoi? C'est que quand une entreprise comme ça, quand vous prévoyez votre départ en vacances, vous fait défaut, vous croyez que vous la reprenez le reste de l'année? Vous croyez que Air France, par exemple, dont vous ne savez pas s'ils vont faire grève ou pas, vous préférez pas prendre une autre compagnie pour partir en vacances? Donc honnêtement, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à gagner. Les grands gagnants, finalement, dans tout ça, c'est qui? C'est les sociétés étrangères, donc tant pis pour nous. Et puis, c'est quand même la voiture, ce qu'on essaye de décourager par ailleurs, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils font les gens? Notamment quand ils partent en France, eh ben, ils prennent leur voiture, ils s'enquiquinent pas à prendre le train, à attendre des heures. Même chose pour les avions. Donc, je trouve que c'est vraiment perdant, pour en plus des raisons qui sont souvent des raisons politiques, de rapport de force. On voit bien que derrière, il y a aussi cette idée, oulala, si vous nous remettez la réforme des retraites sur le tapis, on est vigilant, etc. Donc c'est vraiment là de la manœuvre politique au détriment des clients. Je trouve pas ça très judicieux.
Laurent.
Eh bien moi, Emmanuel, je veux bien débattre avec toi des motifs de la grève à la SNCF. Parce que ça, c'est légitime d'en débattre. En revanche, je débat pas avec toi du droit de grève. Le droit de grève, c'est un droit. Voilà, c'est comme ça. Ça peut nous défriser, nous, les usagers, mais c'est comme ça. C'est un droit qui est légal et constitutionnel. Donc, il n'y a pas de débat sur le droit de grève. Il peut y avoir débat sur les motifs. Mais tu seras d'accord avec moi pour dire que, à chaque fois qu'il y a grève, c'est un échec total. C'est un échec du dialogue social. Faut être deux pour dialoguer. Donc, c'est un échec des syndicats et c'est un échec de la direction de la SNCF. Voilà. Quand il y a grève.
Mais toi, il y a échec du dialogue social pour toi quand les syndicats n'obtiennent pas ce qu'ils veulent.
Non. Quand il y a grève, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, quand il y a grève, c'est qu'on a échoué. Ah bah oui, c'est qu'on a échoué. Voilà. Donc, moi aussi, je le déplore. Je le déplore comme citoyen. Je le déplore comme usager de la SNCF. Et je suppose que les salariés de la SNCF ne font pas grève par plaisir. Je te rappelle qu'à chaque fois qu'on fait grève, Laurent, on perd de l'argent sur son salaire.
Quasiment tout est préventif.
Laisse-moi aller jusqu'au bout.
Quasiment tout est préventif dans cette grève.
Et puis, on va débattre d'un autre sujet. Parce que ça me fait rire. À chaque fois que c'est la SNCF qui fait grève, par définition, quand elle fait grève, les trains roulent pas. Donc, l'usager, évidemment, est perdant. Il est gêné. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que quand la grève ne gêne personne, personne n'en parle.
Ah ben ça, t'as raison.
Oui, oui.
Tu vas
pouvoir parler de l'hôpital.
Eh bien voilà, il y en a une qui suit dans cette émission, c'est Laure.
Merci.
La semaine dernière, les internes en médecine des hôpitaux ont fait grève 48 heures. Pourquoi ils faisaient grève? Parce que au lieu de travailler 48 heures par semaine, ce qui est la loi, hein, et c'est déjà exorbitant de nos fameux 35 heures, on les fait travailler en moyenne 70 à 75 heures. Et même 90 heures par semaine dans certaines disciplines. Qui a parlé de cette grève?
Personne, puisque
ça ne gêne personne.
Bah si, parce qu'ils continuent de travailler.
Non. Oui, tu as raison, ils sont réquisitionnés. Mais en revanche, ils sont quand même ponctionnés sur leur salaire. Qui a parlé de cette grève? Personne. Pourquoi? Bah parce que ça ne gêne personne. Qu'ils fassent grève, moi, ma vie, elle ne change pas. Par contre, quand les cheminots font grève, a fortiori, le jour des départs en vacances, là, tout le monde en parle, puisque ça nous gêne. Donc, il faudrait peut-être aussi qu'on réfléchisse un petit peu. Comment se fait-il qu'on ne parle que des grèves qui nous emmerdent au quotidien? Pardon, qui nous embêtent au quotidien.
Merci.
Voilà. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet.
Et on pourrait peut-être parler du pouvoir aussi de nuire de certains syndicats qui abusent.
On n'a pas tous le même pouvoir de nuisance.
De leur position.
Ah, ça y est,
quasiment.
T'es en train de débattre du droit de grève.
Mais non.
Mais c'est un droit.
Mais d'ailleurs.
Non, mais le pouvoir de nuisance.
Attends. Le droit de grève, quand tu mets en péril ton entreprise, tu as parfaitement le droit de revenir dessus, Laurent.
Non, tu as le droit d'être contre.
T'as le droit de faire la grève, mais tu peux ne pas faire la grève. Et on peut t'empêcher de faire grève si tu mets ton entreprise en péril.
Excuse-moi. Dans une entreprise, tu as le droit d'être contre la grève. Mais tu n'as pas le droit d'être contre le droit à faire la grève. Tu as le droit, dans une entreprise, les syndicats appellent à la grève. Toi, comme salarié, tu peux dire « oui, je suis pour la grève, non, je suis contre la grève ». Ça, tu as le droit. Mais en revanche, tu ne peux pas être contre le droit de grève. Le droit de grève, il est constitutionnel. C'est comme ça. Donc, pour être pour ou contre une grève en particulier, il faut se pencher sur les motifs de cette grève. Et là, on peut débattre.
Il n'y a rien à débattre, Laurent.
Ah si, on peut débattre.
Mais non, puisque ça ne sont que des motifs préventifs. Ouh là là, on a peur de la concurrence. Ouh là là, vous n'allez quand même pas nous faire une nouvelle réforme des retraites. Ouh là là,
c'est pas ce qu'ils disent. Hein.
Ouh là là, vous pourriez quand même.
C'est pas le motif.
C'est
pas ce qu'ils
disent.
Mais c'est les
motifs
de la grève.
Mécontentement général.
Non.
Alors, voilà. Qu'est-ce que tu mets derrière mécontentement général?
Conditions de travail. Moi, j'ai lu l'appel à la grève.
Mais oui, mais
et
là,
on peut en débattre.
Mais il n'y a pas de décision majeure qui justifie que les syndicats soient contre.
En tout cas, j'aime pas quand tu dis qu'il n'y a pas matière à débattre. Parce que du coup, tu vois, je ne sais pas trop ce que
tu veux.
Non,
mais je veux dire, c'est pas la direction de la SNCF qui entreprend une réforme, qui prend des décisions et qui soulève l'opposition des syndicats.
Parce que t'es pas content,
c'est les syndicats
de conditions de travail.
Qui, par principe, font grève.
Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Je vous rappelle notre question. Peut-on encore compter sur la SNCF ou sur Air France pour partir en vacances? Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Patrice qui est chauffeur poids lourd et qui nous appelle depuis Belleville dans le Rhône. Bonjour Patrice.
Bonjour à toute l'équipe.
Toi t'es ni Neumann ni Le Chypre, tu dis vivement une privatisation totale. Alors je te donne quand même un indice, c'est plutôt Le Chypre.
je rejoins un peu Emmanuel sur ce point. Oui, parce qu'il y en a marre, SNCF, de prendre tout le temps les usagers en otage. Hein, parce que ça c'est la prise d'otage, je suis désolé. À un moment donné, les revendications ne tiennent plus la route. Faut pas oublier quand même que la SNCF, c'est l'État, donc c'est l'argent des contribuables. Donc moi, je pense que mon entreprise, si moi je fais grève avec mes collègues, au bout d'un mois, on met la clé sous la porte. Eux, ils peuvent faire grève un mois, ils ont une caisse, je pense qu'ils ont l'argent de quoi se rémunérer derrière. Et puis de toute façon, l'État français va renflouer les caisses. Donc ils continueront tout.
La caisse de grève, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une entreprise publique. C'est parce qu'ils sont nombreux, c'est la masse, quoi.
Oui, mais bien sûr, mais enfin, toujours est-il que ces gens-là, même s'ils font grève, je ne pense pas qu'ils aient une grosse perte au niveau salarial. Hein.
Je pense ils ne mettent pas en péril l'entreprise.
Je
ne
connais pas trop le sujet. Hein.
Ah, bah si, quand ils font grève, il y a une retenue sur salaire du nombre de jours de grève.
Oui, mais je pense qu'ils doivent avoir une bonne caisse.
Ils ont une caisse de grève. Non, mais il peut y avoir une caisse de grève, Laurent.
Attends, vous parlez de deux choses différentes. La caisse, ce qu'on appelle la caisse de grève, ce sont des gens, toi, comme toi et moi, qui alimentent sur leur denier personnel une caisse pour pouvoir dédommager les salariés qui font grève.
Et plus t'es nombreux dans une entreprise, plus ta caisse de grève est importante.
La caisse de grève de la dernière grande grève de la SNCF qui avait duré de nombreuses semaines n'a absolument pas comblé la perte de salaire de tous ceux qui ont fait grève. Hein. Mais alors, c'est même un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 20. Ça leur a peut-être aidé pour certains à finir les fins de mois, mais ça n'a pas comblé la perte de salaire. Et puis deuxièmement, pardon Patrice, hein, je sais que c'est devenu un cliché à chaque fois que la SNCF ou Air France d'ailleurs font grève, l'expression qui prévaut partout, hein, partout, les responsables politiques l'utilisent, les journalistes l'utilisent, on nous prend en otage. Mais attendez, vous avez déjà été pris en otage? Vous savez ce que c'est être pris en otage? Il faut arrêter d'employer des mots. Les mots ont un sens quand même.
Non mais attends, otage, toi évidemment, tu t'en fous, tu pars en vacances en voiture.
Ah bah ça y est.
Donc, bah évidemment, mais parce que tu sais pas ce que c'est. Avec tes quatre gamins, tu te retrouves sur le quai avec tes valises, t'attends deux heures, t'attends peut-être une journée, t'attends peut-être rien du tout, t'as rien demandé à personne, t'as trimé toute l'année pour pouvoir te payer tes vacances. Et il y a des gens dont l'emploi n'est pas menacé, qui vont faire quoi? Qui, pour défendre leurs petits intérêts politiques, vont t'empêcher de partir en vacances? Mais c'est pas possible.
Donc c'est intéressant. Parce que être pris en otage, je te le rappelle, ça veut dire quelque chose.
Oh, mais arrête, non, mais c'est le son de sémantique.
Deuxièmement, il faudra que tu m'expliques pourquoi, il y a 48 heures, quand j'ai eu le malheur de parler de la grève des internes à l'hôpital, mais pourquoi tu t'es pas enflammé comme ça? Tu t'es pas enflammé? T'en avais rien à faire? Voilà, donc il faut malheureusement que des salariés ou des grévistes ou des syndicats prennent ce genre d'initiative qui embête tout le monde, je suis d'accord avec toi, pour que toi ça t'énerve,
Laurent,
et pour que t'en parles.
Entre ceux qui font
c'est
grève,
dramatique, mais c'est comme ça.
Entre ceux qui font grève et qu'on n'entend pas parce que ça ne dérange personne et qui sont dans des conditions de travail difficiles, et ceux qui font grève pour enquiquiner le monde et qui crient avant d'avoir mal, si tu veux, il y a un monde. Voilà, et on n'est pas, on peut déplorer l'un, comme on peut déplorer l'autre.
Pourquoi tu t'es pas énervé comme ça quand je t'ai parlé de la grève des internes?
Tu veux que je te dise pourquoi?
Oui.
Parce qu'on n'avait pas le temps, mon bon Laurent.
C'était
pendant la rubrique de Lisa Marie que Laure nous faisait les gros yeux pour nous dire c'est fini.
On trouve le temps de parler de ça.
Je fais des gestes de la main. Je ne fais pas les gros yeux.
On trouve le temps de parler de ça parce que ça va gêner ton petit départ en vacances. Mais en revanche, les internes qui triment, qu'on a fait semblant d'applaudir au début de la pandémie sur tous les balcons et qui un an après n'intéresse absolument plus personne, là on n'a pas le temps.
Patrice, tu voulais rajouter un dernier mot?
C'est un récurrent, c'est toujours pour les mêmes causes, c'est-à-dire salarial, conditions de travail, mais je crois qu'il y a pire. Hein. Je vais pas défendre ma corporation, mais dans notre métier, nous, les conditions sont difficiles aussi. Hein. Et vous voulez qu'on nous parle un peu du horaire chez nous? C'est
bien
même
sûr.
Pas le horaire de quelqu'un qui fait une femme de ménage. Donc là aussi, nous, on pourrait faire des revendications. Mais nous, le problème, c'est qu'on est une grande majorité, on est plus déprivés, quoi. On peut pas se permettre, même si on a l'envie. Et pour en venir aux internes, alors oui, alors eux, pour le coup, oui, on aurait dû en parler. Mais ça, c'est à vous, médias, d'y mettre en avant.
Ouais, et d'ailleurs, tu disais, la grève à la SNCF ou les conflits sociaux, ce qui est très vrai à la SNCF, c'est récurrent. Mais je te rappelle que ça fait 20 ans, peut-être même 25 ans, que les personnels des hôpitaux se plaignent et de leurs revenus, et de leurs conditions de travail, et des moyens mis à leur disposition, sans que ça change quoi que ce soit.
Je vous rappelle
qu'au début de la pandémie, les personnels des hôpitaux étaient en grève pour certains depuis un an.
Oui, mais c'est donc tout est sur la capacité de nuisance. Regarde la grève des poubelles.
Donc,
au bout d'une semaine, tu te dis toi-même, je vais payer les salaires des éboueurs.
Tu me donnes raison. Il faut donc embêter les gens pour rester polis.
Évidemment.
Pour qu'on s'y intéresse et qu'on se demande si oui ou non leurs revendications sont
justes. Sauf que quand t'es soignant, tu vas jamais faire ça. Tu vas pas arrêter de soigner.
La différence des soignants, c'est que la SNCF, c'est une institution. Eux, c'est tous les ans, pratiquement, qu'on a droit à une grève.
La vraie différence, pardonne-moi Patrice, je suis désolé de te contredire, la vraie différence, c'est que quand les personnels des hôpitaux font grève, ils sont réquisitionnés. Ils sont obligés. Et donc, toi, malade, toi qui vas à l'hôpital, tu ne sais même pas qu'ils sont en grève. Au pire, tu vois des types en blouse blanche qui arrivent avec un petit panneau marqué grève dans le dos. Mais le travail de soins, heureusement, il est quand même fait. Évidemment, il n'y a pas ce type de système-là, la SNCF, je te l'accorde.
Mais là, pour conclure, je pense que le jour où on va vraiment tout vraiment privatiser le, au niveau SNCF, je pense qu'on n'aura plus de soucis là. Le jour où la concurrence sera totale, je vous garantis que ces gens-là, au bout d'un moment, ils vont comprendre. Hein. Parce que les conditions de travail, ça serait intéressant d'avoir, j'espère qu'il y aura quelqu'un de SNCF qui va intervenir, mais qui soit honnête, hein, qui dise exactement le pourquoi du comment, comment ils travaillent, ses pauses. Voilà. Parce que nous, on est en concurrence indirectement, la SNCF et France Transport Routier, on l'est aussi hein, par la marchandise. Mais les conditions, nous, on peut le dire, parce que nous, on découche, on couche dans une cabine. Je pense pas que les gars SNCF soient dans leur train à dormir. Hein. Ils doivent avoir une chambre d'hôtel, on est d'accord. Ils travaillent en horaire décalé, c'est ce qu'ils vont argumenter. Mais nous aussi, on travaille en horaire décalé. Hein.
Non, mais Patrice, il y a beaucoup de gens qui travaillent en horaire décalé. Ça m'a arrangé que Emmanuel ne me prenne pas au mot. Parce que s'il m'avait pris au mot et qu'il m'avait dit « on va débattre des raisons pour lesquelles les salariés là de la SNCF font grève », je t'aurais dit « bah malheureusement, il n'y aura pas de débat entre toi et moi parce que je pense que cette grève, elle n'est pas légitime ». Voilà, je pense que là, ils n'ont pas de raison de faire grève. La grève, c'est le dernier outil que tu utilises quand vraiment il n'y a plus rien. Et évidemment, de faire grève pour les motifs.
Donc, tu es d'accord pour dire qu'il y a une espèce d'habitude de la grève, quoi.
Je pense qu'à la SNCF en particulier, le dialogue social est totalement dégradé.
Dans tous les services publics, dans ces cas-là, est-ce que c'est pareil à l'école, c'est pareil à la crèche?
Oui, mais je pense que les internes, ils n'ont plus d'autres moyens que de faire grève. Ils vont être obligés d'aller se plaindre à l'Union européenne. Parce que la France ne respecte pas la loi. La loi dans ce pays, c'est 48 heures de travail maximum par semaine. Donc évidemment, quand tu compares ces motifs de grève à ceux de la SNCF, bah oui, tu te dis qu'il y en a qui exagèrent un peu.
Restez avec nous, dans un instant on va continuer à parler de cette grève à la SNCF prévue pour le premier départ en week-end des grandes vacances. Un grand merci à Patrice d'être venu débattre avec nous. On sera dans un instant avec Johan depuis Troyes et c'est Christian Broucaret, porte-parole de la FNOT, c'est la Fédération Nationale des Associations des Usagers de Transport qui sera avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chypre.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chypre,
le retour. On est ensemble jusqu'à 15h sur RMC, sur RMC Story. Appel à la grève à la SNCF pour le premier grand week-end de départ en vacances, celui du 3 et du 4 juillet. Alors notre question, peut-on encore compter sur la SNCF ou Air France pour partir en vacances? Pour Neumann Le Chypre, non, il ne joue pas ses congés à la roulette russe, c'est trop important. Il prend sa voiture ou les compagnies étrangères. Pour Laurent Neumann, gênante ou pas, la grève est un droit. Dans un instant, on sera avec Christian Broucaret, porte-parole de la FNOT, c'est la Fédération Nationale des Associations des Usagers de Transport. Mais avant Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Bien, vous, sur cette question, c'est aussi très tranché. Vous êtes 80% à répondre non. On ne peut pas compter sur la SNCF ou sur Air France pour partir en vacances. Vous êtes donc de l'avis d'Emmanuel Le Chypre pour le moment.
Très tranché tous ces débats aujourd'hui. On va aller au 32-16.
Je ne vais pas vous
faire RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Eh ben, c'est pas parce que t'as beaucoup de surprises. Faut te battre, Laurent. Tu ne peux pas abandonner.
Je me contente de dire que la grève est un droit, même quand ça vous dérange.
On est avec Johan, qui nous appelle depuis Troyes, qui est plutôt du côté Emmanuel Le Chypre. Bonjour, Johan.
Bonjour. Bonjour.
Salut, Johan.
Toi, tu es consultant en informatique. Johan, ça fait des années que tu comptes plus sur la SNCF.
Oh là, oui. Alors, moi, c'est, alors, pour le coup, je sais que sur ce point-là, je serais jamais d'accord avec Laurent, hein. Malheureusement, on s'est déjà un peu écharpé sur ces sujets-là. Mais oui, moi, je suis comme Emmanuel. Je me sers de la SNCF quand c'est vraiment nécessaire, quand le risque est minimal. Mais sinon, je me débrouille autrement. Et en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que, Laurent, notamment, c'est que tu brandis à chaque fois le sacro-saint droit de grève. Moi, je le redis, là, ce qu'on voit là, c'est, pour moi, c'est pas de la grève, c'est du blocage. Je m'explique, mais, une grève, pour moi, il faut revenir sur ce terme de grève parce que je trouve qu'il a perdu du sens dans ce pays. Et une grève, elle a au moins deux choses. Elle a des motivations claires et un caractère exceptionnel. Là, les motivations, je vais pas revenir dessus parce que tu l'as dit toi-même, elles sont quand même discutables. Mmh. Et le caractère exceptionnel, si je me trompe pas, c'est le... Je pars sous votre contrôle, mais je crois que c'est le deuxième appel à la grève en moins d'une semaine.
Oui, il y en a eu un lundi déjà sur les transiliens.
Voilà. Donc le caractère exceptionnel, on repassera aussi. Et... Donc déjà, de ce point de vue-là, pour moi, c'est pas une grève, c'est un blocage. Et il y a un deuxième point sur lequel je trouve qu'il faut aussi appuyer, et là, je parle sous contrôle d'Emmanuel, je pense qu'il sera d'accord avec moi, mais aujourd'hui, la SNCF, elle reste pour le moment en position de monopole. Quand on est sur un monopole de service, je suis désolé, mais le corollaire, c'est qu'on se doit d'être exemplaire dans la qualité du service, que ce soit en fiabilité, en fluidité, en ce qu'on propose. Si on a un monopole, on doit être exemplaire. Et là, je suis désolé, on ne peut pas me vendre que la SNCF est exemplaire. Donc non, je compte plus sur eux. Je trouve que ça ne s'explique pas, en fait, tout simplement.
Ouais, je comprends ton point de vue, Johan. Juste deux petites précisions. D'abord, l'appel à la grève ne dure que deux jours. Tu pouvais parler de blocage au moment de la réforme des retraites, quand la grève a duré des semaines et des semaines et qu'elle a pourri la vie de millions de gens. Là, on pouvait parler de blocage. Et d'ailleurs, je préfère le mot de blocage à prise en otage. Blocage, ça fait sens. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est deux jours. Et en plus, si je dis pas de bêtises, ça ne concerne que les trains Ouigo. Alors évidemment, on les prend, les Ouigo, c'est les moins chers. C'est les moins chers. Je crois que c'est.
C'est beaucoup.
Ah oui, c'est beaucoup.
Mais ça n'empêche que concrètement,
c'est 38 rames sur 400.
Quand t'as quand même réservé tes billets depuis longtemps et que toi, ça tombe, tu as la malchance que ça tombe sur toi. Concrètement,
c'est bien sûr, mais bien sûr,
c'est quand même compliqué.
Et Laurent, je trouve que tu passes encore sous silence. Moi, je voudrais insister là-dessus. Encore une fois, aujourd'hui, en tout cas, la SNCF est en monopole. Ils se doivent d'être exemplaires. Et ce côté-là, je trouve qu'on le passe sous le tapis. Mais c'est dingue.
Johan, il y a deux cas de figure après, puisqu'il y aura deux types d'ouverture à la concurrence. Il y aura l'ouverture à la concurrence des lignes. C'est-à-dire qu'en gros, on attribuera des lignes à certaines compagnies qui feront toute l'activité sur ces lignes, ce sera le cas pour les TER notamment, ou alors il y aura des créneaux qui seront attribués à des compagnies. Alors le principal qu'on peut citer, c'est sur la ligne Paris-Lyon notamment, il y aura sans doute une concurrence italienne qui viendra concurrencer la SNCF, donc sur des créneaux qui appartiennent aujourd'hui à la SNCF. Et là, effectivement, quand tu fais Paris-Lyon, tu auras le choix entre prendre la compagnie probablement italienne, ou peut-être que les Allemands viendront aussi, et la SNCF, oui. Et là, au moment des départs en vacances, il est possible que ça coûte à la SNCF.
Johan, reste avec nous, on est avec Christian Broucaret. Bonjour, porte-parole de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations des Usagers de Transport. On entendait Johan et Emmanuel dire la grève, c'est tout le temps à la SNCF, c'est régulier, c'est en permanence. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que c'est assez habituel qu'il y ait des grèves à la SNCF. Et ce coup-ci, là, c'est très dommageable parce que, en plus d'une crise environnementale, enfin, une crise sanitaire, on tombe dans une crise sociale et au plus mauvais moment, au moment des départs en vacances. Et quand on dit aux gens qu'il faut avoir des moyens de transport vertueux, le train est un transport de moyens vertueux, et l'un de vos commentateurs l'a dit, bah, de toute façon, les gens vont se tourner vers la voiture. Et c'est très dommageable, de toute façon, pour le climat et aussi, de toute façon, pour la France entière.
Vous pensez que c'est trop pour les usagers, c'est le coût de trop ?
C'est un coup de plus parce que les usagers, ils sont habitués. Vous savez, moi, j'ai une présidente d'association qui a pour habitude de dire quand on veut être sûr d'être à l'heure, on prend la voiture et le reste du temps, ben, on prend le train. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens perdent de la confiance dans le train et c'est très dommageable, entre autres, sur les jeunes générations qui vont de nouveau être... impactés au moment où il y aura encore des fêtes de bac, des concours, des choses comme ça, et ils ne font pas confiance à la SNCF. Et je peux vous assurer que j'ai entendu souvent des jeunes me dire « j'en ai marre d'être impacté par tous les dysfonctionnements de la SNCF », parce qu'il n'y a pas non plus que les grèves, hein. Il faut quand même voir aussi les retards, les trains supprimés. Et il y a des jeunes qui vous disent, écoutez, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir me débarrasser du train et de prendre une voiture. Et c'est pas que le sentiment de liberté qu'on a avec une voiture ou tout, c'est parce que la voiture aujourd'hui, ça représente une certaine fiabilité pour un certain nombre de clients de la SNCF.
Non mais Christian Broucaret, c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas que l'impact financier et mécanique de ces deux jours-là. C'est-à-dire que ça remet en cause la crédibilité sur toute l'année et la fiabilité de la SNCF. Alors que par ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'on va sans doute rentrer dans les années qui viennent dans une amélioration assez spectaculaire de tous les dysfonctionnements qui sont liés à des problèmes techniques. Tous ces TGV qui tombaient en panne au milieu, etc. Et dont tous les gens... Moi, j'ai fait partie des gens, comme toi alors, je le sais, qui ne prenait plus le TGV sans des provisions, parce que vous aviez peur de tomber en rade dans la campagne. Ça, techniquement, ce sera bientôt résolu. Il y a tout un tas de technologies formidables sur les pannes, la prévention des pannes, etc. La fluidité de la circulation des TGV qui vont... Techniquement, on va avoir moins de pannes, moins de problèmes, un réseau de meilleure qualité. Le seul problème, ça va devenir effectivement ces grèves et qui font, est-ce que je vais partir ou pas? Et ça, c'est quand même dommage.
Laurent, tu voulais réagir?
Non, je voulais poser une question à Christian Broucaret. Tout à l'heure, Emmanuel a dit quand la SNCF fait grève, c'est des grèves corporatistes, etc. C'est intéressant comme adjectif parce que c'est un adjectif qu'on n'emploie jamais lorsqu'une entreprise privée fait grève ou quand les éboueurs font grève ou quand les internes
font grève. A priori, c'est toujours corporatiste, c'est ça que tu veux dire.
Ou c'est tout le temps corporatiste ou ça ne l'est jamais. Moi, je voudrais savoir si vous avez jeté un coup d'œil, Christian Broucaret, au motif de cette grève. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que c'est simplement le signal, une fois de plus, de l'échec du dialogue social à la SNCF? Qu'est-ce que vous en pensez concrètement?
C'est plus probablement le signe de manque de dialogue social, parce que, comme vous l'avez dit précédemment, la grève, je dirais un peu, pour adopter un adjectif guerrier, l'ultimatum, c'est la dernière déclaration de paix avant la guerre. Et là, le problème, c'est que quand on arrive à la grève, ça veut dire que derrière, des ultimatums, il y en a eu certainement. Mais le manque de confiance qu'ont les clients aujourd'hui dans la SNCF, il faut bien le noter, vous l'avez dit et vous l'avez répété, et ça, c'est ce qui est très dommageable. Je rappelle aussi, il y a l'un des prédécesseurs, l'un de vos auditeurs qui a dit le service public et puis les gens qui ne sont pas en concurrence. Je vous rappelle comment ça se passait dans les années 80, 90, enfin 80, en électricité. Il y avait très souvent des grèves chez EDF, il y avait souvent des coupures d'électricité. Aujourd'hui, à part une panne, je ne pense pas que vous vous rappeliez de la dernière fois qu'il y a eu grève dans les industries électriques et gazières. Alors, je ne dis pas que dans les industries électriques et gazières, il y a plus de concertation entre les salariés et le patronat. Mais enfin, il y a peut-être des évolutions qui doivent se faire dans la SNCF et que le dialogue social soit lié et que ce soit pas toujours dans le rapport de force qui est au détriment des clients. Alors pourquoi je parle en termes de clients? Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand c'est le TGV ou que c'est le Ouigo, les pertes, elles sont 100% pour la SNCF. Quand c'est les TER ou les intercités, les pertes, c'est pour les conseils régionaux ou pour l'État, c'est pour ça qu'on parle en termes d'usager dans le cas où c'est une délégation de service public. Tandis que là, c'est en direct. Et c'est quand même très dommageable, je l'ai dit et je le répète, je m'excuse de le répéter, mais c'est très dommageable qu'un moyen de transport écologique, on ne puisse pas avoir confiance en sa fiabilité.
D'autant plus que la SNCF vient de lancer une nouvelle politique commerciale, c'est d'autant moins le moment de faire grève.
Ouais, enfin, un détail près, pardon, je complète ce que ta question, c'est que les Ouigo ne font pas partie de la nouvelle politique tarifaire. Or là, la grève ne porte que sur les Ouigo.
Oui, mais probablement que vous verrez qu'il y aura des ajustements qui se feront en cours, on le sait. Le Ouigo sera aussi intégré dans la politique commerciale. Et c'est amusant parce que je pensais exactement la même chose que vous, parce que juste avant de prendre l'antenne, je regardais mes mails. Et comme je suis client de la SNCF, j'avais encore un rappel pour que je prenne la fameuse carte avantage. Et c'est vrai que je trouvais que la coïncidence était cocasse.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christian Broucaret, porte-parole de la FNOT. C'est la Fédération Nationale des Associations des Usagers de Transport. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Un grand merci à Johan qui était avec nous juste auparavant. On était avec Bruno qui nous appelle de Le Porche dans la Gironde. Bonjour Bruno.
Bonjour. Bonjour.
Toi, tu es pilote de ligne, Bruno. Tu n'as pas prévu de faire grève pour les départs en vacances?
Non, moi j'ai pas prévu de faire grève pour les départs en vacances. J'interviens juste parce que j'entendais qu'il y avait un amalgame avec la SNCF et Air France. Je sais plus si c'est Laurent et Christian et ils ont raison. Hein. Moi, sur ces avis, sur ces grèves qui ont lieu toujours pendant les départs en vacances, je trouve ça inacceptable. Et surtout de la part des pilotes de ligne. Hein. Je vais parler pour les pilotes de ligne, des pilotes de ligne d'Air France, où c'est grassement payé, on a des avantages énormes. Des fois, faudrait que beaucoup de mes collègues retombent et viennent dans la vraie planète et de comparer leur salaire par rapport à des salaires d'ingénieurs très compétents. Et ces grèves sont inadmissibles. Mais le problème du groupe Air France, c'est que le groupe Air France n'a pas de patron. Le groupe Air France, le patron du groupe Air France, c'est un syndicat qui s'appelle le Syndicat National des Pilotes de Ligne, et c'est tout. Et tous les patrons que l'on a eus, et même le dernier qui se disait super virulent, etc., est mené par la bout du nez par ces puissants syndicats qui n'en font qu'à leur tête et qui souvent déposent des préavis de grève, mais pour des broutilles. Moi, souvent, mon rêve, ce serait qu'un journaliste fasse une investigation au sein du groupe et compare et voit tout ça. Et là,
pour toi, le pouvoir chez Air France est au syndicat, notamment celui des pilotes de ligne.
Le syndicat national des pilotes de ligne. Ouais. C'est un syndicat qui s'appelle le syndicat national des pilotes de ligne. C'est la SNPL et c'est lui qui dirige la boîte.
Qui dirige le groupe.
Lui et pas d'autre. T'as rien d'autre. Personne d'autre. Et eux, dès qu'ils lèvent le doigt, ils font ce qu'ils veulent.
Pouvoir de nuisance, hein, Bruno. On en revient toujours au même.
Ouais, mais on scie la branche sur laquelle on est assis, Bruno, aussi, au bout d'un moment.
On scie la branche sur laquelle on est assis. Mais moi, ma branche, ces syndicats, ils l'ont sciée puisque je suis viré de toute manière. On est viré dans. Moi, je travaille pour une compagnie qui a été rachetée par Air France il y a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on leur demande d'avoir des avions de plus grosse capacité, etc., pour lutter contre les low cost. Je vais vous donner un petit exemple. Hein. Pour lutter contre les low cost. Tout ça, ça a toujours été refusé par le syndicat national des pilotes de ligne. Ça a été refusé pour s'apercevoir que maintenant, sous Covid, que ben si on a vu des avions plus gros, on pourrait concurrencer ces low cost. Et conclusion, la décision du syndicat national des pilotes de ligne, ben ils disent, ben, on n'a qu'à fermer cette boîte. Donc ils sont en train de la fermer. Là vous allez avoir 50% du personnel de hop.
Oui, c'est ça qu'Emmanuel appelle scier la branche sur laquelle on est assis. Hein. Vous êtes d'accord tous les deux. Un grand merci Bruno d'être venu nous parler d'Air France et ton travail de pilote de ligne. On va continuer à parler ensemble de cet appel à la grève de la SNCF pour le premier week-end des vacances, des grandes vacances. C'est le week-end du 3 au 4 juillet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites encore confiance à la SNCF ou à Air France pour vos vacances? On vous attend au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chypre.
RMC, midi 15h.
Neumann Le
Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 15h sur RMC Story. Appel à la grève à la SNCF pour le premier grand week-end de départ en vacances, le 3 et le 4 juillet prochain. Ça approche, c'est dans une semaine. Peut-on encore compter sur la SNCF ou Air France pour partir en vacances? Le ou Air France est totalement préventif. Il n'y a pas eu pour l'instant d'appel à la grève, mais on ne sait jamais. Du coup, on a mis ou Air France. Pour Emmanuel Le Chypre, non, je ne joue pas mes congés à la roulette russe. Je prends ma voiture ou les compagnies étrangères. Pour Laurent Neumann, gênante ou pas, la grève, c'est un droit. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Antoine, qui est agent SNCF, qui nous appelle depuis Saintes. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Toi, tu es à la SNCF depuis 10 ans, tu n'es pas syndiqué et tu ne feras pas la grève.
Ouais, tout à fait, je ne ferai pas la grève. Alors, je me permets de réagir parce qu'effectivement, je trouve que c'est un peu caricatural de dire que le train n'est pas fiable. Effectivement, il y a une grève. Après, je pense que l'impact, si on regarde la réalité sur le plan de transport, il sera assez minime. Je pense que la plupart des gens pourront partir en vacances et que le train est un moyen de transport fiable et qu'il faut absolument faire confiance à la SNCF.
C'est une grève sur les Ouigo, hein. On a dit que c'est 38 rames sur 400 à la SNCF.
Ouais, voilà, tout à fait, c'est ça. Et encore, à mon avis, c'est pas les 38 qui rouleront pas. Hein. Il va y avoir certainement un impact.
Mais voilà, toi qui es là-bas depuis 10 ans, est-ce que tu vois passer, passe-moi l'expression, les préavis de grève comme les trains au quotidien?
Non, franchement, il n'y en a pas tant que ça. Après, des grèves qui ont été vraiment suivies là, depuis 10 ans, moi je suis à la SNCF, surtout celle des retraites de l'année dernière. Ouais. Après, voilà, il y a honnêtement aujourd'hui une majorité des agents SNCF qui ne sont pas syndiqués, qui ne font pas forcément grève. Après, il y a aussi les syndicats qui jouent leur rôle. Et honnêtement, qui ont leur rôle à jouer, parce qu'en tant qu'agent SNCF, on est obligé aussi de constater que c'est une entreprise qui est en train de changer énormément et ça suscite énormément d'inquiétudes. Ouais. Voilà, et honnêtement, les conditions de travail ne sont pas si fabuleuses que ce que disaient les auditeurs d'avant. Voilà, où on s'imagine que c'est absolument génial, on est blindé d'avantages, on gagne énormément d'argent. C'est faux. Aujourd'hui, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients en face, dont on parle assez peu, je trouve. Et les avantages sont là pour compenser les inconvénients.
Ouais, voilà, et Antoine, je parle sous ton contrôle, mais on est le 23 juin. La grève est censée avoir lieu le 3 et le 4 juillet. C'est un appel à la grève. Peut-être que d'ici là, les motifs de la grève peuvent avoir disparu et l'appel peut être annulé, non?
Oui, effectivement. Après, franchement, j'y crois pas trop parce qu'effectivement, le dialogue social est quand même largement dégradé. Maintenant,
oui, mais tu dis des avantages et des inconvénients, mais c'est pour tous les métiers pareil. Il n'y a pas de spécificité à la SNCF.
Hein. Tout à fait. Mais après, dans tous les avantages, dans tous les métiers, on a des avantages.
Bah oui,
on compte beaucoup sur de la SNCF parce que c'est une entreprise publique. Mais franchement, je pense qu'en si on fait la balance entre les avantages et les inconvénients, et d'ailleurs, moi, je m'occupe de la formation des jeunes embauchés. On a énormément de mal à recruter parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent pas venir chez nous. Honnêtement, c'est mal payé. On demande une mobilité géographique qui est énorme. On a des horaires qui sont pas très intéressants. Alors, moi, je dis pas que c'est terrible. Hein. J'aime beaucoup mon entreprise et j'estime que je suis bien loti. Par contre, force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut venir bosser chez nous et qu'on a de gros problèmes pour recruter. Donc, c'est qu'à mon avis, c'est pas si extraordinaire que ça.
Non, mais Antoine, il y a deux choses. D'abord, tu ne peux pas mesurer l'impact d'une annonce de grève sur les Français simplement avec des statistiques pour dire il y a que tant de trains qui vont.
C'est la confiance.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, concrètement, tu
et
as instillé,
la fait du mal,
tu as instillé dans l'opinion publique grève de la SNCF au moment des départs en vacances. Je suis d'accord avec toi. Si on regarde statistiquement point par point, c'est peut-être pas énorme, mais ça n'empêche que c'est ça lézarde franchement la confiance qu'il y a dans la SNCF.
Non, mais attends, la dernière grève a été quand même très violente, SNCF et RATP, il y a un an et demi.
Attends, il faut rappeler
c'était
quand même
pire que la neige, les gilets jaunes et la crise sanitaire, quand même, pas à Paris, par exemple.
Sauf que, il y a aussi quelque chose d'important, c'est les raisons de la grève. Les dernières grandes grèves, il y avait des réformes structurelles qui étaient à l'œuvre. Il y avait le statut des cheminots, il y avait la réforme des retraites, il y avait le changement de statut
Emmanuel,
de l'entreprise SNCF.
Pardon, il y a un truc où Antoine a 100% raison. C'est que pendant toute la durée de la grève, qui a été effectivement l'heure extrêmement dure à propos de la réforme des retraites, on a entendu matin, midi et soir que les cheminots étaient couverts d'avantages.
Alors justement, on est avec Stéphane. On est avec Stéphane qui est chauffeur de bus, qui nous appelle depuis Brest. Bonjour Stéphane.
Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Emmanuel.
Tu es contre cette grève ?
Stéphane ? Oui. Moi je trouve que c'est une prise d'otage. Je vais contre toi, Laurent, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est entièrement faux. C'est la grève a été décidée pour là où ça va faire le plus de mal. D'ailleurs, les NAO sont pas commencés, que les gars, ils arrivent vers les responsables syndicaux. C'est quand qu'on fait grève. Donc, la grève, elle est décidée là où ça va faire le plus de mal.
Avant même de discuter.
Ça va être dans l'heure de pointe, là où les gens vont au travail. Et là où les gens qui n'ont pas de voiture vont au travail. Donc c'est fait pour embêter un maximum de monde. Donc si c'est une prise d'otage.
Laurent, tu dirais si ça n'embête personne, on n'en parle pas. Donc c'est vrai qu'il y a un côté œuf ou la poule. Un grand merci.
Mais c'est assez logique que les usagers soient contre la grève. Faudrait être masochiste pour dire « Ah super, il y a une grève !» Bah non, évidemment, quand on est usager de la SNCF, que ce soit pour le départ en vacances ou surtout pour aller au travail tous les jours, forcément, on est contre la grève puisque ça nous gêne.
Merci beaucoup Antoine et Stéphane d'être venus débattre avec nous dans Neumann le Chip. Quel est le résultat définitif, Lisa Marie ?
Vous êtes finalement 75% à avoir répondu non, on ne peut pas compter sur la SNCF ou sur Air France pour partir en vacances.
C'est bon à savoir, on va parler de Blanche-Neige.
RMC, Neumann le Chypre.
C'est bon à savoir.
Disney a choisi la prochaine actrice qui se glissera dans la peau de Blanche-Neige, Lisa Marie.
Oui, une Blanche-Neige métisse. Disney a longtemps été taxé de ne choisir que des personnages principaux blancs. Alors cette annonce fait beaucoup parler. Elle s'appelle Rachel Zegler. Elle est encore quasiment inconnue du grand public. Elle a tout juste 20 ans. Mais retenez bien son nom car on va beaucoup en entendre parler dans les mois à venir. Elle tiendra aussi le premier rôle dans le remake de West Side Story de Steven Spielberg qui sortira en décembre prochain. Rôle pour lequel elle a été choisie parmi 30 000 candidates. Et si le studio Disney a aussi jeté son dévolu sur Rachel Zegler pour incarner la prochaine Blanche-Neige en chair et en os, c'est, je cite le metteur en scène, pour son talent, sa force, son intelligence et son optimisme, rien que ça, mais c'est aussi pour son métissage. Elle a une maman colombienne et un père polonais et elle est un nouveau signe d'inflexion du studio Disney qui avait déjà mis à l'affiche des premiers rôles issus de la diversité dans les adaptations en prise de vue réelle de Mulan et de Aladdin. Alors il faudra patienter, hein. Ce film sera tourné l'année prochaine en 2022, mais avec cette annonce, Disney se fait déjà un joli coup de pub.
J'irai pas le voir.
Pourquoi t'iras pas le voir ?
J'irai pas voir ce film. Pourquoi pour une raison extrêmement simple, c'est que pour moi, depuis que je suis gosse, Blanche-Neige, c'est un dessin animé de Walt Disney. Ça a nourri toute mon enfance. Je veux pas aller voir un autre Blanche-Neige. Je suis désolé. Que ce soit un autre, une adaptation en dessin animé ou une adaptation avec des vrais personnages, j'ai pas envie d'aller voir autre chose. Pour moi, Blanche-Neige, j'y en a qu'un.
Voilà, d'accord. Et donc j'ai pas compris. C'est pas le fait qu'elle soit noire ou blanche, machin. C'est l'adaptation en film du dessin animé.
Mais de la même manière, ce que tu viens de m'apprendre que effectivement
Mulan, Aladdin.
Ou Mulan ou Aladdin. Mais tu as parlé de West Side Story, oui. Un remake.
Je
n'irais pas voir un remake de West Side Story.
Ah, tu es contre les remakes.
Ah bah oui, totalement.
Oui, d'accord.
Contre les remakes.
Ah, bien sûr, oui. Bien sûr.
Mais alors, non, moi j'avoue que ça me dérange absolument pas. Enfin, je veux dire, on pourrait mettre, elle pourrait même. Enfin, tu vois, je ne tiens pas. Quand tu es comédien, tu es comédien. Et donc, quel que soit ton physique, tu fais abstraction de ton physique pour être comédien. Donc voilà. Donc moi, j'attends
là,
de
voir. Là, par exemple, on a regardé une série. Lisa Marie, tu vas m'aider. Qui se passe sous le règne victorien, etc. Où la reine d'Angleterre est noire.
Les chroniques de Bridgerton. Voilà. Sur Netflix.
C'est pas dérangeant.
Oui. Non, ouais, le problème, c'est que c'est nul. Mais
c'est un autre
problème.
Mais ça m'a pas dérangé de voir la reine d'Angleterre métisse ou noire. Ouais. Pas gênant.
Non, mais après tu peux. Enfin, je veux dire, après ça dépend. Si tu fais quelque chose qui a un rapport avec la vérité historique.
Moi, je dis qu'il faut juste pas toucher.
C'est pas crédible.
Il faut toucher à mon Blanche-Neige. Non, mais
il faut être fidèle. Il faut être fidèle.
Mais Blanche-Neige,
il faut être fidèle à l'histoire. Après qu'on nous dise que pour le prochain James Bond, l'acteur sera chinois, colombien, africain.
Ah non, Blanche-Neige, c'est particulièrement gratiné. T'as déjà montré Blanche-Neige à des enfants?
Mais évidemment.
Non, mais.
Et Bambi, c'est pas un film
de Blanche-Neige. Ah non, mais
Bambi, c'est beaucoup moins violent que Blanche-Neige.
Mais non,
Blanche-Neige n'a pas été fait pour les enfants.
Mais moi aussi, j'ai jamais pu le regarder. Tu veux que je te dise la vérité? J'ai jamais pu le regarder.
Alors,
je n'ai jamais pu le regarder.
Une petite explication, Blanche-Neige n'a pas été fait par Walt Disney pour des enfants. C'était un film pour adultes, un premier dessin animé, mais il n'a aucun moment pensé que c'était à destination des enfants. Donc quand tu regardes Blanche-Neige aujourd'hui, tu te dis quand même c'est un petit peu violent, mais ce n'est pas un dessin animé pour enfants.
On peut quand même ne pas s'empêcher de penser que cette jeune actrice a quand même un physique extrêmement stéréotypé, qui est le même physique qu'on retrouve aujourd'hui et qui plaît
chez toutes les actrices,
chez toutes les jeunes actrices.
Ouais, merci beaucoup, Lisa Marie. On peut retrouver ces bons savoirs sur rmc.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Dans un instant, on va parler éducation sur RMC. Hurler sur ses enfants, c'est illégal. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. Est-ce que vous, ça vous arrive d'élever la voix? Pour Laurent Neumann, c'est oui. Pour Amel, c'est non. On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC Story. On vous dit à demain. Salut.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chiffre.